RFI.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire. Comment est né le racisme populaire en Europe, aux États-Unis ou au Japon? C'est l'une des questions dérangeantes posées par le groupe de recherche HAC dès sa formation en 1989. Le collectif de chercheurs cofondé par l'historien Pascal Blanchard s'attaque alors à la question coloniale et à ses prolongements dans nos sociétés contemporaines. Dès 2002, il met à jour l'un des épisodes les plus refoulés de notre mémoire et publie un ouvrage majeur aux éditions La Découverte. Il s'intitule « Zoo humain au temps des exhibitions humaines ». Et ils ne lâcheront plus le sujet. En 2011, Pascal Blanchard et ses collègues historiens, anthropologues ou cinéastes entrent au musée du Quai Branly pour l'exposition « Exhibition, l'invention du sauvage ». Et en 2018, après 20 ans de recherche, c'est un documentaire accessible à tous qui est cette fois proposé sur la chaîne Arte. « Sauvage ». Au cœur des eaux humains. C'est un film coécrit par Pascal Blanchard et Coralie Muller, réalisé par Bruno Victor Pujbé et raconté par l'auteur, compositeur, interprète Abdal Malik.
Avec les eaux humains, le racisme devient populaire, ordinaire. On vient voir le sauvage, toujours plus exotique, plus terrifiant, et désormais mis en scène. Il se nomme Tombo, aborigène d'Australie. Otabenga, pygmée du Congo. Petite Kapline, fuégienne de Patagonie. Jean Thiam, Wolof du Sénégal. Marius Kaloé, Kanak de Nouvelle-Calédonie. Moliko, Kalina de Guyane. Comme eux, des milliers de personnes ont été exhibées. L'histoire a oublié leur nom.
Redonner un nom à celles et ceux qui étaient exhibés comme des bêtes sauvages, c'est certainement la dimension la plus émouvante et la plus novatrice de cette longue enquête à découvrir dans le film Sauvage, à travers l'histoire et la géographie des zoos humains, un film que mes invités ont la générosité de venir partager en avant-première dans la marche du monde sur RFI. Bonjour Pascal Blanchard.
Bonjour.
La question des zoos humains est une question que vous travaillez depuis très longtemps. Pourquoi vous continuez à explorer ce sujet? Est-ce que c'est une obsession?
On peut considérer qu'un historien a des obsessions. Il en faut peut-être de temps en temps pour aller regarder au fin fond des armoires, des archives et d'aller trouver les documents. Je pense que surtout c'est un sujet monde et qu'après moi d'autres le continueront. Ce n'est pas un épiphénomène de l'histoire. Comment les gens ont regardé le reste du monde? Comment l'histoire coloniale s'est légitimée? Comment l'eugénisme est devenu légitime aux États-Unis? Comment d'un seul coup on a cru qu'il existait des sauvages aux quatre coins du monde et qu'on pouvait les coloniser pendant plusieurs siècles? Comment tout ça est devenu une évidence? Notre travail ne sont en fait que les balbutiements du début d'un travail beaucoup plus vaste qui sera, je pense, de plus en plus travaillé dorénavant société par société, de comprendre quel est l'impact au Congo, au Sénégal, en Inde ou en Australie de ces histoires, de chacune des histoires individuelles, va devenir, dans les années qui viennent, de véritables sujets de recherche, d'études, d'ouvrages, de thèses, parce que c'est une histoire qui a été massive. Ce n'est pas un épiphénomène.
Et cette fois, vous avez choisi la télévision, c'est toute la question de l'écriture aussi, du récit historique. Est-ce que c'est la place de l'historien, la
télé? Bien sûr. Il doit être capable d'arriver à transmettre le récit du passé en essayant de trouver les meilleurs vecteurs. Si demain je devais aller faire des claquettes pour le faire, je ferais des claquettes.
Ok, ça je retiens.
Non mais c'est fondamental, nous devons savoir trouver comment faire rentrer dans le grand récit quand ils sont en plus complexes comme l'histoire des œufs humains. Et là on l'a bien vu, il y a de l'émotion. Il y a le temps de la parole de l'autre. Il y a aussi des images qui nous amènent un rapport à ce passé de manière incroyable. Le travail d'archives qu'on a pu faire avec Bruno a été extrêmement long pour arriver à trouver les images de ce récit. Là, d'un seul coup, le documentaire devient l'espace évident pour nous d'aller raconter, transmettre et d'une certaine manière de faire rentrer dans l'histoire des eaux humains un public qui peut-être d'une certaine manière serait resté en périphérie, n'aurait pas été voir des livres ou suivre une conférence.
Ou une expo.
Oui, expo.
Bruno, c'est Bruno Victor Pujbé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'heureux réalisateur de ce film très didactique, hein, organisé sous forme de chapitres, presque comme une leçon d'histoire, mais comme vient de le rappeler Pascal, également très humain, puisque pour la première fois, on rencontre des descendants de petites Caplines ou de tombeaux, celles et ceux qui ont été exhibés. Comment vous avez abordé cette dimension du film ?
Bah moi, quand Pascal m'a présenté le projet, puisque c'est à l'origine un projet de Pascal, il m'a parlé de déshumanisation. Et moi, ma démarche de réalisateur de documentaire, c'est justement l'humanité. C'est d'essayer de sortir du politique qui fait des grands discours, mais qui ne s'intéresse pas aux gens.
Ou des chiffres.
Ou des chiffres, exactement. C'est toute la problématique des migrants, par exemple. Et d'aller voir derrière ce qui se passe et de remettre l'humain au centre de l'image, au centre du récit.
Bonjour Abdel Malik.
Bonjour.
Alors vous êtes écrivain, interprète, cinéaste et vous avez accepté d'être le narrateur de ce documentaire sauvage au cœur des eaux humains. Moi j'aimerais savoir ce qui vous intéresse vous dans ce projet particulièrement.
Il y a beaucoup de choses. D'abord moi je suis un raconteur d'histoire, je suis un conteur. Et je pars du principe qu'il est important finalement de raconter son histoire propre, son histoire individuelle et de la connecter à la grande histoire. Et j'ai envie de dire et vice versa. Et lorsque Pascal me parle de ça, moi je vois une histoire individuelle, je vois mon histoire, où je m'inscris. Mes parents sont originaires du Congo, je suis né à Paris, j'ai grandi en Alsace, je me sens profondément français, européen. Mes racines sont donc africaines, congolaises, je suis musulman. Mon idée en tant qu'artiste, en tant qu'être, en tant que citoyen, c'est de dire finalement comment, avec tout ça, comment faire peuple, comment on va faire peuple aujourd'hui en 2018. Et ce travail qui est fait là, ce travail d'historien, est vital pour ça. Et puis le mien, mon travail d'artiste, où finalement je travaille les imaginaires, est complémentaire. Voilà.
Sauvage, au cœur des eaux humains, est diffusé samedi 29 septembre sur la chaîne Arte. Un documentaire à découvrir en avant-première sur RFI.
Cette petite fille au regard effrayé, nous ne connaissons pas son nom. Seulement le surnom qu'on lui a donné. Petite Caplines. Elle a 2 ans et demi. Un jour d'été 1881, elle s'est fait enlever avec sa mère, surnommée Petite Mère, et d'autres fuégiens de son village, au cœur de la lointaine Patagonie, pour être conduite de force sur un bateau à destination de l'Europe. Petite Caplines est une Amérindienne, issue d'un peuple originaire de la Terre de Feu, dans les profondeurs du Chili. Au 19e siècle, les explorateurs qui les découvrent les décrivent comme des sauvages. Puis, à partir de 1870, les colons s'accaparent leurs terres et pillent tout sur leur passage. En quelques années, ils s'emploient à l'élimination de ce peuple dans l'indifférence générale. Les Fuégiens sont aux yeux des Occidentaux des êtres étranges, d'authentiques primitifs que seule une poignée d'aventuriers a eu la chance d'observer dans ces terres reculées. Voilà pourquoi un impresario allemand du nom de Karl Hagenbeck, figure montante des exhibitions humaines en Europe, a décidé d'en présenter des spécimens au public dans plusieurs zoos européens. C'est une grande première qui promet de créer l'événement.
Des corps dénudés, entourés de peaux de bête. Une fuégienne de Patagonie serrant sa petite contre ses seins nus. Un regard terrifié qui traverse le temps jusqu'à nous. Et pourtant, à l'été 1881, l'exhibition de Petite Caplines à Paris au jardin d'acclimatation ne fait pas scandale. Tout au contraire, elle crée l'événement, Pascal Blanchard. Pourquoi ?
La curiosité. Aller voir ce que l'on ne connaît pas. Les gens, à l'époque, ne voyageaient pas. Ne traversaient pas le monde. Il n'y avait pas les avions, les bateaux, les supersoniques, les voitures capables de nous emmener au bout du monde. Et ils savaient qu'ils n'iraient jamais en Patagonie, jamais au fin fond de l'Afrique, jamais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, jamais au Japon ou en Inde. Aller au jardin d'acclimatation ou aux expos coloniales ou universelles, c'était de voir la diversité du monde, voir ce que nos yeux ne verraient jamais. Et donc on allait à la fois par la curiosité, mais aussi parce que la communication nous faisait venir. Les affiches recouvraient les murs de Paris, le Petit Journal ou le Petit Parisien titraient en première page « Allez voir les sauvages ».
Donc c'est un spectacle.
C'est un véritable spectacle unique. On a peut-être la chance dans sa vie de voir une seule fois telle ou telle population. On en parlera à tout le monde parce qu'on l'a vu.
Et d'où vient cette mode de l'exhibition? Parce qu'il ne s'agit pas d'aller rencontrer l'autre, il s'agit d'aller le regarder comme un étrange animal.
Parce qu'à l'époque, il est perçu comme un animal. On nous explique que ce ne sont pas des humains. C'était des humains, ils ne seraient pas dans des enclos. Ils ne seraient pas au milieu des animaux, genre dans l'acclimatation. Ils seraient dans nos rues en train de marcher. On explique qu'il y a deux humanités sur la Terre. Il y a une humanité qui regarde l'autre humanité, une humanité qui colonise l'autre humanité. Une humanité qui est supérieure. Rappelez-vous qu'on est au temps où il y a des soi-disant races supérieures et des soi-disant races inférieures. Le monde s'organise ainsi. Et si vous pouvez exhiber l'autre, c'est que vous pouvez donc le coloniser.
Alors, on a entendu dans cet extrait qu'il y a un recruteur qui s'appelle Karl Hagenbeck. Et d'ailleurs, le zoo créé par Karl Hagenbeck existe toujours en 2018. Lilian Thuram l'a visité et il confie ses impressions dans votre film.
Je me rappelle une visite au zoo d'Hagenbeck. J'ai été extrêmement choqué. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez au zoo, sur la porte, vous voyez en fait qu'il y a des hommes et des animaux. C'est-à-dire que ces hommes et femmes étaient mis sur le même niveau que les animaux. Et donc c'est extrêmement dérangeant. Mais en même temps, ça vous donne à comprendre pourquoi c'est devenu quelque chose de culturel. Je ne suis pas sûr que les personnes qui venaient visiter avaient cette distance en disant voilà, c'est un business, donc ce n'est pas vraiment vrai. Ils sont en train de jouer. Mais je pense qu'à l'époque, non, il n'y avait pas cette distance. Et c'est ce qui est extrêmement dangereux.
Lilian Thuram, engagé dans l'éducation contre le racisme avec sa fondation, il est dans le film Sauvage, au cœur des eaux humains. En fait, il pose la question de l'invention du sauvage, Pascal Blanchard.
Oui, et il pose aussi la question du public à l'époque et de leur perception. Est-ce qu'ils se rendaient compte que ce qu'ils voyaient en fait était un spectacle, une invention? On invente le sauvage n'existe pas. Mais le public à l'époque, il ne pense pas comme ça la chose. Il a vu le sauvage, donc le sauvage existe. Quand il rentre à la maison, qu'il a acheté la carte postale, il envoie la carte postale au reste de la famille en disant « J'ai vu le sauvage, il ne m'a pas mangé ». Il était au jardin, on s'est approché, heureusement qu'il y avait l'enclos. Et d'un seul coup, tout ça devient réel, puisqu'à un moment, la fiction dépasse la réalité. Donc quand il voit ces Fuegiens, quand il voit ces Indiens d'Amazonie, quand il voit les Africains qui sont amenés, il croit ce qu'il voit. Et quelque part, d'un seul coup, la science légitime, comme la grande presse, comme l'opinion légitime ce qui est vu. Tout ça semble vrai. Et comme c'est du vrai, et ben ça remplit une case de compréhension du monde. Et en plus, tout ça s'est fait naturellement en se divertissant, en pique-niquant le week-end au jardin d'acclimatation.
Alors ça se passe au jardin d'acclimatation à Paris, ça se passe aussi ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis, Pascal Blanchard. Ce sont les célèbres spectacles de Finneas Taylor Barnum, qui commencent lui par des spectacles de l'étrange. Ce sont les Freaks Show. Comment mélange-t-il cela avec justement ces soi-disant sauvages?
Il y a une normalité, c'est le visiteur. Et tout ce qui n'est pas visiteur, c'est la normale. Donc le monstre comme l'exotique font partie du monde de la normale.
Donc les monstres au départ, ce sont des gens qui ont des déformations
Biforme,
physiques,
la plus grosse femme du monde, telle ou telle population avec des longs poils, des êtres étranges, vrais ou faux d'ailleurs, fabriqués ou non.
Et on paye pour voir ces gens.
Mais rappelez-vous le film Elephant Man de David Lynch. Nous venons voir la diversité, ces spectacles, nous payons pour voir ce spectacle, et les impresarios ne font pas ça uniquement par passion ou parce que ce sont des malades au niveau de leur cerveau, parce qu'ils savent qu'ils sont dans un travail capitaliste. Ils vont chercher au bout du monde des populations qui vont leur apporter des fortunes en les exhibant. Le grand public est demandeur de l'étrange. Les impresarios trouvent la réponse à cette demande de l'étrange et vont aux quatre coins du monde trouver de plus en plus étranges. Tout ça fabrique un système. Et ce système, il repose aussi par définition, sur un monde qui veut comprendre le monde qui l'entoure sans pouvoir aller le voir.
Et c'est ainsi que les personnes anormales ou difformes se retrouvent mêlées aux populations soi-disant exotiques du bout du monde.
Barnum a tout prévu pour faire de sa nouvelle acquisition le clou de son spectacle. Il leur a inventé une histoire et taillé des rôles sur mesure. Tremblez face à Billy, le chasseur aux terrifiantes scarifications. Succomber au charme de Suzy, princesse du Queensland. Vibrer devant Tombo, le féroce combattant dont la danse de guerre crée l'événement.
À Venir d'une île perdue du Nord Queensland pour être exhibé devant 30 000 personnes, je ne peux qu'imaginer l'horreur qu'ils ont dû ressentir d'être exhibés dans un pays étrange, entouré de gens étranges, de sons étranges et d'odeurs. Dieu seul sait ce qu'ils ont ressenti.
Dieu seul sait ce qu'ils ont ressenti, s'interroge Grandad Walter, descendant de Tambo, aborigène d'Australie. Devant votre caméra, Bruno Victor Pujbet, vous avez parcouru le monde à la recherche des descendants, de celles et ceux qui ont été exhibés. Comment ça s'est passé avec justement Grandad Walter? Est-ce que c'est vous, au fond, qui lui avez présenté aussi des images de son histoire?
Alors moi, ce qui m'a frappé vraiment, mais de manière très très forte, c'est que quand on regarde un film d'archives, on pense que ça appartient au passé. Et là, tout d'un coup, en rencontrant ces aborigènes, comme d'autres peuples que je suis allé voir, cette histoire-là, elle était totalement vivante.
Vous voulez dire dans leur mémoire à eux?
Mais plus que dans la mémoire. C'est-à-dire qu'en leur montrant une photo, ils avaient les larmes aux yeux. Et tout d'un coup, c'était comme si le fait qu'on traverse la planète en leur ramenant une photo, on faisait une reconnaissance de cette histoire. Par exemple, les aborigènes, ils ne voyaient pas du tout la dimension monde dont parlait Pascal tout à l'heure. Pour eux, c'était une violence qu'avaient subie les aborigènes en Australie avec les colons australiens. Et puis tout d'un coup, en discutant, ils se sont rendus compte que ça appartenait à une histoire beaucoup plus grande, l'histoire de la colonisation. Et face aux photos, il n'y avait plus de mots, il n'y avait que de l'émotion. Et après, dans ces sociétés-là, il faut vivre en harmonie avec les ancêtres. Et tant que les ancêtres ne sont pas en harmonie, on ne peut pas vivre bien. Donc dans le cas des aborigènes, Tambo, il est mort en exil, il est mort pendant son exhibition, et pendant longtemps, son corps avait disparu. Il a été retrouvé dans un mur d'un magasin mortuaire de Cleveland, empaillé, puisque une fois qu'il était mort, on a continué à l'exhiber. C'est-à-dire que même quand on était mort, on continuait à être un phénomène de foire. Et grâce aux autorités américaines, le corps a pu être rapatrié. Et là, il y a une cérémonie qui a permis de réconcilier cette histoire pour les aborigènes avec leur passé.
Et vous avez vous-même, en tant que réalisateur, une façon de réinscrire l'image de celui qui a été effacé de l'histoire, en quelque sorte, dans le paysage de votre film, puisque en grand format, vous inscrivez les photographies des ancêtres, de ceux que vous rencontrez aujourd'hui, qui sont leurs descendants, dans les lieux de vie, que ce soit en Australie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Nouvelle-Calédonie. Pour quelles raisons vous avez souhaité, en quelque sorte, ritualiser cette image photographique dans votre film?
Quand on a eu ce parti pris, on ne savait pas si ça allait fonctionner. Et ce qui a fonctionné de manière incroyable, c'est que quand ce sont donc des grandes photographies qu'on a fait tirer et qu'on a amenées dans les différents endroits où vivaient ces troupes.
La mémoire s'inscrit dans le paysage, en quelque sorte.
Exactement. Du coup, quand j'ai ouvert, par exemple, cette grande photo devant les aborigènes, sans que je dise rien, ils m'ont dit « on sait où on va la mettre ». Et c'est eux qui m'ont amené dans la forêt sacrée pour que la photo soit au milieu de leurs ancêtres. Et là, tout d'un coup, parce que moi j'aime travailler sur cette idée des fantômes. Toute la problématique du cinéma est autour du fantôme. On continue à faire exister des gens même quand ils sont morts. Donc ça a un rapport avec cette histoire-là. Et là, le fait que tout d'un coup ils me disent « il faut qu'elle soit là », c'était une manière de les ramener chez eux.
Redonner un nom et une dignité à celles et ceux qui ont été exhibés et en même temps se poser la question du pourquoi et du comment faire face à cet oubli de l'histoire, c'est l'ambition de votre film où l'on croise les témoins, les descendants, mais aussi les historiens comme John Mackenzie de l'université anglaise de Lancaster ou encore Achille Mbembe de l'université de Johannesburg en Afrique du Sud.
Il y a eu sans aucun doute le sentiment que si l'on exhibait ces peuples lointains, cela nous renverrait une image de nous-mêmes. La soi-disant supériorité de notre civilisation était mise en lumière par l'exhibition de ces peuples primitifs qui démontraient à quel point nous étions avancés.
Il faut que le colonisé accepte, partage et participe au mythe qui le fabrique. Et c'est ce qui est arrivé à l'époque coloniale. Pas seulement en Afrique, mais aussi au Japon et ailleurs. Mais pour que le sauvage existe, il faut que Celui qui est présupposé comme sauvage accepte quelque part qu'il l'est effectivement.
Je vous avais prévenu, on pose des questions dérangeantes aujourd'hui dans la marche du monde. Achille Mbembe et John McKenzie, ce sont deux des nombreux historiens qui interviennent dans ce film sauvage, au cœur des eaux humaines. C'est une vision internationale, des regards croisés avec des historiens et des témoins, où se passe, où se pose la construction du mythe du sauvage, du point de vue bien sûr de ceux qui les regardent, mais aussi du point de vue de ceux qui sont regardés. Abdelmalik et Achille Mbembe posent cette question, qui n'est pas forcément agréable à entendre.
Moi, quand j'ai participé à raconter cette histoire, je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a frappé, qui continue à me frapper, c'est que, en fait, il y a une construction du regard. Le regard se construit. Mais en même temps, ça nous explique que si un regard peut être construit, alors on peut déconstruire aussi le regard. Et le propre de ce film, de cette histoire qui est racontée pour nous autres aujourd'hui, maintenant, c'est de se dire, alors comment on déconstruit ça? En se rendant compte aussi de l'impact que ça a encore aujourd'hui dans notre quotidien, comment on regarde l'autre et comment on se regarde nous encore aujourd'hui.
Donc on doit prendre l'histoire en charge ensemble, on doit déconstruire ensemble.
Ensemble. Totalement. Et je me rends compte, et on se rend compte, que ce genre de démarche, de mon point de vue, ce genre de film, c'est aussi un médicament. On doit être capable de déposer ce sac de douleur pour pouvoir avancer sainement dans le présent et pour l'avenir.
Mbembe va plus loin. Je disais, c'est des questions qui fâchent. Il pose aussi la question, non pas de la responsabilité, mais d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire comment celui qui a subi cette oppression l'a-t-il intériorisé, l'a-t-il peut-être parfois acceptée, voire reproduite.
C'est pour ça que je revenais sur cette idée de construction du regard, de déconstruction, etc. Parce que, évidemment, on a construit une image, et comment l'autre est regardé, mais comment on se regarde soi-même également. Et de ce point de vue-là, en tout cas, si on devait, j'ai envie de dire, réfléchir en termes de presque de pathologie, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui est partagé. Et il y a quelque chose, il y a une guérison.
Là, on n'est pas loin de Frantz Fanon.
Exactement, totalement, totalement. Dans ce sens-là, évidemment, il y a une responsabilité. Évidemment, on doit réfléchir sur ces choses-là. Si on a envie véritablement d'avancer, ben, il y a cette idée de guérison. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement de dire voilà les coupables, voilà les victimes, etc. Mais de se dire comment on va guérir et comment on va avancer, pour le coup, tous ensemble et positivement.
Alors cette construction du regard sur l'autre, ces images décolonisées, des exhibées, ce sont d'abord des images scientifiques, comme vous le racontez Abdelmalik dans le film Sauvage, au cœur des eaux humaines.
Selon l'idéologie de l'époque, la preuve est faite à travers la photographie de l'organisation raciale de l'humanité entre civilisés et sauvages. Car l'image ne ment pas, dit-on. Elle est un outil scientifique dont l'usage répond à une véritable méthodologie élaborée par d'importants savants. Parmi les photographes les plus prolifiques de cette époque se trouve Roland Bonaparte, membre de la Société de géographie et savant reconnu.
Roland Bonaparte, membre de la Société de géographie et savant reconnu. Pascal Blanchard, qui est-il? Quelle est sa thèse à l'époque? Et comment utilise-t-il ce nouveau média, la photographie?
Il fait de la photographie un objet de science. Il considère qu'il faut faire œuvre de savoir, montrer ces populations de la Terre à l'ensemble de ses contemporains, et que la meilleure manière de leur montrer des peuples qu'ils ne connaîtront jamais, c'est de les photographier, mais pas n'importe comment. Il est un peu dans l'esprit de Bertillon avec le monde des criminels. Il pense que le faciès, le regard, le visage, la corpulence, les cheveux, la couleur de la peau renvoient à une identité. Donc il dit la meilleure manière, c'est de les photographier, ces peuples de la Terre, de la même manière, de la même façon, et d'en faire une forme de galerie du monde qui va permettre de classifier par l'image les gens. Et donc de tenir discours sur l'autre par la photo.
Classifier, Pascal Blanchard, ça veut dire faire des catégories.
Oui.
Donc il y a ceux qui sont tout en haut, il y a
pas
ceux
forcément.
Qui sont tout en bas.
Pas forcément, pour tous les savants de l'époque. Déjà, classifier, c'est de mettre chacun dans une case, dans une sorte de rameau, d'organisation du monde. Certains savants s'opposent à la notion d'hiérarchisation du monde à l'époque. Ceux, bien sûr, qui vont l'emporter, c'est ceux qui vont penser qu'il y a une hiérarchisation, en gros avec le blanc en haut, et les populations aborigènes, pygmées, des fugiens, les populations qu'ils vont qualifier de primitives, proches du chaînon manquant, les plus basses et les plus abattardies. On parle même que ces populations vont disparaître. D'ailleurs, certains impresarios vont annoncer « venez les voir avant qu'ils disparaissent de la surface de la Terre ». Bonaparte, il est entre eux, ces deux mondes. Mais son objet qu'il fabrique de photographie, où est-ce qu'il va les photographier? Dans les eaux humaines.
Donc quelque part, il prend le zoo humain comme un objet de science. Et il fait des photographies qu'il ressort, une galerie du monde où, inconsciemment, mais quelque part très naturellement, il va positionner chacun dans déjà des catégories plus ou moins élevées. Le fait de photographier quelqu'un habillé à côté de quelqu'un à moitié nu, c'est pas simplement de photographier dans un soi-disant biotope. C'est d'arriver à construire une hiérarchie du monde, parce que dans l'imaginaire collectif du temps, le sauvage est déshabillé.
Alors on peut se poser la question justement des survivances de ces points de vue, y compris dans la production télévisuelle actuelle, où on nous propose régulièrement d'aller rencontrer les derniers sauvages. Ça reste un argument publicitaire
comme un argument imparable. Comme un argument touristique. Vous avez des gens qui payent très très cher pour aller au bout du monde, voir des populations.
À qui on demande de se déshabiller par ailleurs, hein, enfin, très souvent.
C'est quand même très drôle, il y a des villages Maasai dont on sait aujourd'hui qui sont des purs villages à touristes, où les gens ne vivent pas dans ces villages et le soir, quand les touristes à 16h, 16h30 sont partis, ils repartent dans leur village.
Enfin, ils ont fini leur boulot.
Vous imaginez pas un touriste payer 7, 8, 9 000 dollars pour aller voir des gens qui ont un iPhone, des casquettes et des Nike aux pieds. C'est inconcevable. Donc il faut fabriquer non pas ce qui existerait théoriquement, il faut fabriquer la mythologie du sauvage que le touriste a dans la tête, comme en télé. Quand la caméra va quelque part, elle fonctionne exactement de la même manière que le zoo humain. Elle nous emmène dans un monde où on va découvrir à travers la curiosité des gens qui ne vivent pas comme nous, donc des gens différents de nous. Et en plus, pour vendre mieux l'affaire, on emmène un people pour le faire, pour créer une double altérité, que ce people montre à travers sa propre réaction qu'il a découvert un autre monde. Alors là, ça se fait avec souvent une bien-pensance absolue, où on dit chacun a le droit de vivre sa propre humanité, sa propre différence ou diversité, mais en même temps, qu'est-ce qui fait que le public regarde? C'est la différence. C'est le choc des altérités. Et là, on comprend ce qui attirait nos arrière-grands-parents quand ils allaient au jardin d'acclimatation, à l'Expo universelle ou au pied de la Tour Eiffel. Ils vont voir quelque chose qui va quelque part créer le frisson sauvage.
Bruno Victor Pujbé, j'aimerais aussi avoir votre regard, c'est le cas de le dire, sur ces sources photographiques et filmiques que le public pourra découvrir donc à partir du 29 septembre sur la chaîne Arte, parce qu'il y a une masse de photographies et d'archives filmiques extrêmement impressionnantes, qui ne sont pas colorisées. Comment vous avez abordé justement ces sources archivistiques? Parce que j'insiste là-dessus, c'est un film extrêmement riche du point de vue de l'iconographie.
D'abord, moi, en tant que réalisateur, par rapport au travail d'historien de Pascal, le fait d'être confronté dans la salle de montage tous les jours à ces images, il y a une question qui m'est venue extrêmement forte, c'est comment ça se fait que j'avais jamais vu ces images? Pourquoi on m'en a pas parlé à l'école? Donc du coup, ce qui était extraordinaire, c'était de travailler avec un matériau qui avait été récolté pendant des années grâce aux recherches des historiens.
C'est donc, ça, 20 ans de Pascal, travail.
Ouais, 20 ans de travail. Ouais. Et entre les premiers sujets qui ont été faits et aujourd'hui, cette quantité-là d'images était phénoménale. Une grosse partie de ces images restait dans les zoos humains. Et nous, il fallait qu'on raconte une histoire à travers les différents récits de personnages qu'on a dans le film. Donc il y avait la nécessité d'avoir ces photos dans les zoos humains, des photos contextuelles aussi, parce que un film, c'est quand on raconte une histoire, il faut mettre les gens dans l'époque. Donc il y a eu un très gros travail qui a été fait aussi pour nous mettre dans le Paris de 1900. Et le plus difficile qu'on ait eu, c'est quand on a décidé de faire de cette histoire des récits personnels,
voilà.
Puisque l'idée était de réhumaniser une histoire où on avait voulu déshumaniser les gens. Et surtout que les photographies, en général, quand elles étaient sur les exhibés, à l'intérieur des zoos, on prenait toujours des plans larges. Un sauvage, on ne l'individualise pas. On le prend en groupe.
On a la même chose avec les tirailleurs africains, par exemple.
Alors qu'on a des gros plans à l'époque, blancs, etc. Et donc, le travail qu'on a fait sur les archives, c'était de retrouver le maximum de photos de nos personnages dans le film, et puis après de travailler sur le gros plan. Et face à un regard, moi je peux vous dire, tous les jours dans ma salle de montage, j'étais bouleversé, c'était comme si c'était ma petite sœur, ma cousine, quelqu'un de ma famille qui était face à moi.
Et puis il y a aussi des images animées. Moi j'ai été sidérée par exemple de découvrir dans le spectacle Barnum aux États-Unis le vrai Buffalo Bill et le vrai chef Apache Geronimo.
Bien sûr.
Jouer leur propre rôle. Vous me dites bien sûr, Pascal Blanchard, bien sûr pour vous, mais c'est hallucinant.
Parce que la culture américaine en a fait...
Comment peuvent-ils jouer leur propre rôle?
Mais parce que ça, c'est l'Amérique. L'Amérique a inventé l'industrie du spectacle. Et l'Amérique, immédiatement, au moment où les Indiens sont vaincus, écrit sa propre histoire. Et à l'époque, le cinéma n'existe pas. Donc Hollywood est inventé avant Hollywood. Et Buffalo Bill vient raconter l'histoire de l'Amérique alors que les guerres indiennes ne sont même pas terminées. Et ces Indiens qui ont été vaincus, on leur dit, le seul endroit où tu pourrais être toi et ne pas couper tes cheveux, c'est dans les zoos humains. C'est ce qui arrive à Geronimo.
C'est incroyable.
Et c'est incroyable, il participe lui-même à l'écriture de l'histoire et de la négation de son peuple. Mais en même temps, à ce moment-là, il faut toujours se reposer la question. Quels sont ses choix individuels? Comment doit-il faire? Pourquoi Otabanga vient aux États-Unis en 1904? Pourquoi la troupe de l'Afrique mystérieuse décide de venir? Pourquoi Thiam, lui-même exhibé, devient exhibeur et emmène ses propres frères, tantes et cousins être exhibés à Paris? Aujourd'hui, c'est trop facile de penser qu'ils avaient forcément un choix évident de dire non. Nous sommes dans un temps où les gens ne voyagent pas des deux côtés du miroir. Peut-être que pour un Congolais de 1897, lui annoncer qu'il allait partir à Bruxelles est une chance dans sa vie. Il ne sait pas forcément ce qu'il va rencontrer de l'autre côté, mais il y a des histoires individuelles derrière ces histoires collectives. Il n'y a jamais une réponse collective à la domination coloniale ou aux exhibitions. Ce que le film essaye de montrer, c'est qu'en grattant dans chacune des histoires, on arrive à tirer un fil où il y a un humain. La petite Kathleen, c'est d'abord cette jeune fille de 2 ans et demi qui meurt à Paris, qui n'a rien demandé au monde, qui ne sait certainement pas du tout ce qu'elle fait là. Et que son histoire n'a jamais été écrite par personne. Quand avec Bruno, on va gratter les archives à la mairie de Neuilly, parce que le jardin d'acclimatation, quand il y avait un décès, c'était à la mairie de Neuilly. Il a fallu trouver tous les deux sur le registre cette preuve que personne ne nous donnait. Est-ce qu'elle était bien morte dans le jardin? Est-ce qu'elle était bien enterrée dans le jardin d'acclimatation? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous allez vous promener avec vos enfants au jardin d'acclimatation, vous avez bien petite Kathleen sous vos pieds? Oui. Oui, il a fallu un temps, le temps de l'historien, mais aussi le temps de l'enquête, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et trouver les images qui vont avec, pour que d'un seul coup le public se dise « Waouh, cette histoire me raconte quelque chose de totalement incroyable que personne ne m'avait jamais raconté avant. »
L'exhibition des êtres humains est un instrument de propagande au service d'une idéologie colonialiste et raciste. C'est ce que montre le film « Sauvage au cœur des eaux humains » où l'on découvre l'exposition universelle de Saint-Louis aux États-Unis en 1904.
Comment faire basculer l'opinion publique? Comment l'amener à soutenir l'occupation des Philippines? Grâce à une exposition universelle. L'exposition de Saint-Louis est devenue un projet national pour le gouvernement américain. Son intention était de l'utiliser pour mettre en scène ses colonies et prouver ainsi que le pays était désormais une force internationale d'un nouveau genre.
Les 3e Jeux olympiques de l'ère moderne, inaugurés au cœur de l'exposition de Saint-Louis, affirment cette nouvelle puissance. Les organisateurs en profitent pour lancer les journées anthropologiques, des compétitions à caractère raciste, réservées aux représentants des peuples dits non civilisés, jugés incapables de rivaliser avec une nation occidentale. Il faut faire éclater aux yeux du monde la supériorité de la race blanche. La fracture raciale est partout, jusque dans le sport.
Tous les anthropologues cherchent à prouver que parmi l'ensemble des différences entre les êtres humains, la race est sans aucun doute la plus fondamentale. Ils s'efforcent donc d'étudier et d'introduire l'idée que les races sont des catégories légitimes pour expliquer et comprendre ce qui différencie les êtres humains.
La voix de l'historien Robert Rydell de l'Université du Montana aux États-Unis. Il explique la théorie scientifique des catégories raciales née au XVIIIe siècle, Pascal Blanchard. Une théorie appliquée au sein même de la société américaine, c'est la grande différence avec l'Europe.
Une différence qui est majeure, c'est que l'Amérique va chercher aussi. On se dit, mais pourquoi l'Amérique va-t-elle chercher des pygmées du Congo pour parler à son pays alors qu'il y a déjà des Noirs aux États-Unis? On pourrait imaginer qu'on fasse même aller des faux spectacles. Pas du tout. C'est une construction sociale, politique et raciale du pays où on montre des pygmées pour dire aux Noirs, regardez de qui vous descendez. Et on dit en même temps aux Blancs, regardez qui ils sont. Nos lois raciales qui interdisent les mariages, les lois Jim Crow, c'est pour éviter qu'un jour nous terminions comme ça en pygmées. D'une certaine manière, l'exposition de Saint-Louis, comme celle de Chicago 1893, construit l'identité de l'Amérique, une identité blanche, où l'Amérique sait très bien que sur son sol, la color line va être la ligne à ne pas franchir pour garder une identité, pour la sauvegarder, dont aujourd'hui Donald Trump est le pur héritier. Les eaux humaines ne fabriquent pas simplement le racisme basique, brutal, énoncé quand les gens sortent, ça y est, ils ont tout compris. C'est beaucoup plus complexe, on fabrique aussi l'identité de ceux qui viennent. En Europe, c'est l'identité des nations. Les Suisses, par exemple, vont très très loin. Il faut même un village suisse pour dire aux Suisses qui sont les Suisses. Pour vous dire comment ça va très loin. Il faut fabriquer des modèles de référents. Je m'oppose aux eaux humains, je ne suis pas ce noir sauvage avec plusieurs enfants qui courent à moitié nus au milieu d'un enclos où il y a des animaux.
Et en même temps, je fabrique mon identité collective de chrétien, blanc, avec des familles structurées. Je me rassure. Je me rassure en allant aux eaux humains sur ce que je suis. Mais en fin de compte, ce que je suis, je ne le savais pas avant d'y aller.
Alors aux États-Unis, cette idéologie vient servir évidemment toute l'histoire de l'esclavage, oui, mais vient aussi justifier ce monde séparé.
Séparé et l'eugénisme. Et
l'eugénisme. Qui va perdurer, en tout cas légalement, puisque c'est un racisme d'État, jusqu'au milieu des années 60.
Exactement.
Avec toutes les lois
mais
pour les droits
civils. Ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que l'Amérique n'a pas besoin de justifier son colonialisme intérieur. Il s'auto-justifie avec la manière dont la société américaine fonctionne. Il doit justifier par contre l'interdiction des mariages interraciaux. Ça c'est très important. Mais il doit aussi justifier ce que l'Europe a beaucoup moins connu, à part quelques pays comme la Suisse ou la Suède, l'eugénisme. La défense de la race. Ce qu'on oublie complètement, c'est que toutes ces théories étaient portées par un discours eugéniste incroyable. Le non-mélange racial aux États-Unis est une vision qui considère que pour sauver le peuple américain, il faut éviter de se mélanger. Et les Noirs sont considérés dans l'univers des anormaux. Nous, aujourd'hui, ça nous paraît totalement incroyable, parce que, en tant qu'Européens, nous nous sentons loin de cette histoire. Chacun a digéré les eaux humains à l'aune de son propre récit et de ses propres situations nationales.
Alors je rappelle en passant que le racisme n'est pas une opinion mais un délit et que vous montrez bien que la hiérarchie des races est une construction théorique, pas une vérité historique. C'est un historien qui parle. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre film, c'est que vous n'avez pas une position morale ou essentialiste qui défendrait par principe le noir contre le blanc. Écoutons l'histoire du Sénégalais Jean Thiam.
Parce qu'il est recruteur, Jean Thiam, ici, au milieu des organisateurs, échappe à son statut de simple exhibé. Il est libre de ses mouvements. Il fait depuis des années de nombreux allers-retours entre l'Europe et l'Afrique pour recruter de nouveaux figurants. Il en a profité pour faire fructifier son argent et sa notoriété dans son pays natal. Il devient maire adjoint de l'île de Gorée. Il ouvre de nombreuses boutiques et des ateliers de forgerons à Dakar. Il financera, après l'exposition de Marseille, le premier grand club de football sénégalais. Du côté des exhibitions, ses médailles s'accumulent, témoignage de sa réussite au pays des Blancs. Jean Thiam recevra même la Légion d'honneur en 1920, pour service rendu à l'entreprise coloniale de la France. On croyait toutes ces décorations perdues après sa mort en 1927. Mais N'Diogou Seck, son descendant, les a précieusement conservées dans sa maison à Dakar. Son aïeul enterré non loin de là, à Gorée, est toujours présent à travers ses médailles.
C'est bien emballé, hein?
Ouais.
Il le faut, quoi, pour conserver ça. On a devant nous les médailles de Jean Thiam. Elles représentent une exposition. Comme par exemple ici, Grand Prix d'exposition universelle, Paris 1900. Ici, exposition de Nantes. Comme cette médaille-là, les expositions, c'était pour montrer comment les Africains vivent, quoi. Il amenait des lutteurs, des cordonniers, des bijoutiers. Il montrait beaucoup de choses, quoi. Ce qu'on trouve ici en Afrique, il amenait ça là-bas.
La voix de Diogou Seck, le descendant wolof de Jean Thiam. Et c'est vous, Bruno-Victor Pujbé, qui l'avez retrouvé au Sénégal. Diogou Seck, qui a une fierté sincère de la réussite sociale de son grand-père.
Alors, c'est pas moi qui l'ai retrouvé, c'est les chercheurs qui ont une fois de plus travaillé sur cette histoire. Et grâce à leur travail, bah on a pu enquêter un petit peu plus, parce que ça demandait en effet du travail, de retrouver ce panneau sur lequel il y a les médailles de Jean Thiam. Et c'est vrai que ça a été un moment assez bouleversant, parce que même pour Pascal à distance, quand on lui a ramené les photos, tout d'un coup, cette histoire qui était très lointaine, elle devenait très concrète. Et on se dit « Waouh !» Et dis donc, le Jean Thiam, qu'est-ce qu'il a fait comme exposition? Et ce qui était assez aussi troublant, c'est qu'on était dans la cour de cette petite maison de son descendant et qu'il le faisait avec beaucoup de naturel et sans forcément se rendre compte de cette histoire-là, en fait. Pour lui, c'était quelque part une belle histoire de réussite. Il ne voyait pas tout le côté négatif de cette histoire.
Absolument. Abdelmalik travaillait avec des historiens, ça suppose d'établir les faits et forcément de s'interroger sur l'attitude et aussi la part de responsabilité décolonisée, hein, pour le dire vite, dans cette histoire qui est aussi une histoire de business, hein, on le comprend avec l'ascension sociale de Jean Thiam. Comment vous avez réagi à cette séquence ?
Ben, y a toujours cette idée de comment on regarde l'autre, mais comment on se regarde soi aussi.
Comment... Déjà, comment vous l'avez regardé, vous, Diogo Houssac ? Moi, il m'a touchée. Je l'ai trouvé assez émouvant, finalement. Il est assez fier de montrer les médailles de son grand-papa, non ?
Oui, mais ça montre aussi, peut-être aussi une forme d'ignorance par rapport à sa propre histoire. Et encore une fois, on en revient à l'importance du savoir, de l'éducation, etc.
Et du partage
de ce savoir, complètement.
Que nous permet aujourd'hui RFI, par exemple.
C'est ça. Parce que sinon, on est dans une forme, j'ai envie de dire, d'illusion. Et on fantasme quelque chose. Et puis, mais l'idée, encore une fois, c'est de dire que, et on en revient à ça, c'est qu'il y a des histoires individuelles, d'individus, comment eux, ça les impacte dans leur propre vie, dans leur rapport au monde, dans leur rapport à l'autre. Donc, il y a de l'importance de ce savoir-là. Pourquoi on agit de cette manière ? Pourquoi on pense de cette manière ?
35 000 exhibés, 1,5 milliard de visiteurs entre 1810 et 1940, dans des expositions coloniales, dans des zoos ou des cirques, avec pour apogée l'exposition coloniale internationale de 1931, c'est à Paris, inaugurée par le président de la République, Gaston Doumergue. C'est une archive INA.
Je déclare ferme l'exposition internationale colonial de 1931, noble entreprise d'union et de paix entre les nations. Et j'adresse aux puissances étrangères et aux peuples qui sont représentés le salut très amical de la France.
Événement extraordinaire que l'exposition universelle de 1931, une reproduction de l'empire tropical français organisée en différents pavillons. Madagascar, la Guinée, l'Inde française, la Somalie et les possessions françaises du Pacifique, notamment Tahiti. Et puis Pascal Blanchard, il y a aussi le pavillon de la Nouvelle-Calédonie où l'on peut voir en chair et en os les femmes dénudées des peintures de Gauguin.
Et les Kanaks cannibales qui venaient deux fois par semaine depuis le jour de l'acclimatation où ils jouaient aux sauvages cannibales se mettre en monstration autour du pavillon de la Nouvelle-Calédonie parce que quel est l'intérêt de venir voir des pavillons si vous ne voyez pas les peuples ? Les populations exhibées dans les zoos humains, c'est aussi la manière pour les puissances coloniales de mettre en scène leur discours économique et de légitimité des empires coloniaux. Et d'un seul coup, il faut des indigènes qui se trémoussent, qui dansent, qui bougent, qui sont sur des pirogues, qui donnent à manger. Vous pouviez les manger au restaurant de la Guadeloupe, vous pouvez, mais il y avait même un restaurant qui s'appelait le restaurant de Bagdad. On voyageait et les indigènes étaient là pour mettre en scène une forme d'ambiance, comme la rue du Caire à l'exposition universelle de 1900. Tout ça construisait du rêve, mais surtout de la légitimité coloniale.
Avec un dispositif qui a évolué, puisqu'il s'agit aussi maintenant, dans l'entre-deux-guerres, de vendre la mission civilisatrice.
Nous avons emmené ces hommes et ces femmes vers la lumière. Donc on ne montre plus les sauvages et les pouspous du début du siècle. Les négresses à plateau qui sont exhibées l'année précédente ou les canaques cannibales, ça c'est au jardin d'acclimatation de Paris. À l'expo coloniale, on montre une modernité. La France emmène ses peuples vers la lumière. Mais ils continuent à être mis en scène par le colonisateur.
Et puis aussi ce regard sur le corps des femmes, c'est l'objet de
vous avez vu des images livres. Incroyables dans le film, où on voit dans l'exposition de Marseille 1922 où des femmes au sein nu sont exhibées. Est-ce qu'on imagine dans des sociétés corsetées où les corps sont cachés, où d'un seul coup on ne montre pas l'autre nu, sauf dans des spectacles érotiques ? Là, les enfants, les familles vont visiter des expositions où l'autre est dénudé. Si l'autre est dénudé, c'est qu'il n'est pas dans la même humanité que nous.
Abdelmalik, il y a un autre destin particulièrement bouleversant retracé dans le film, c'est celui de Ota Benga, pygmée du Congo belge, on en a déjà parlé, exhibé à l'exposition universelle de 1904. Là, c'est aux États-Unis, à Saint-Louis, dans le Missouri. Et son histoire est celle aussi d'une tentative d'intégration dans la société américaine, sauf qu'il va se suicider. Mmh. Bruno Victor Pujbé a filmé sa tombe. Et dans l'histoire que vous racontez, vous interpellez aussi les Africains, et plus précisément, pourquoi pas, le gouvernement du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut aussi une prise de conscience, justement, des descendants et des États, des anciennes colonies, pour réclamer les corps? Et pourquoi c'est important de réclamer ces corps?
D'abord, j'ai envie de dire, basiquement, à titre individuel, pour les familles. Et on parlait tout à l'heure du fait de la réconciliation. On a quand même affaire à des gens qui attachent une importance à la construction d'eux-mêmes et à l'aspect spirituel des choses et le fait de pouvoir enterrer un ancêtre, parce que c'est quand même, on est dans le culte des ancêtres, etc. Alors, lui donner une sépulture, c'est aussi la paix pour lui et pour la famille et pour le peuple, etc.
Donc, c'est enfin faire son deuil.
Enfin faire son deuil. Et ça, pour moi, c'est la première des choses. Avant de parler de coopération entre les pays, etc., là on parle vraiment d'individus. Et je pense que c'est aussi le propre de ce film, c'est-à-dire de ramener à l'humain, aux humains que nous sommes tous. Donc voilà, donc ça, c'est la première des choses. Et puis évidemment, aujourd'hui, bien sûr qu'il faut prendre ses responsabilités, tout le monde. Ce qui s'est passé là et ce qui se passe aujourd'hui, tout ça est en lien. Lorsqu'il y a un certain rapport, un rapport de force entre les différents pays, etc. Et je pense qu'en commençant par la base, finalement, et ben peut-être que d'autres choses plus complexes qui concernent les puissances, le jeu des puissances, de l'économie, etc., etc., on pourra parler de ça, j'ai envie de dire, de manière peut-être plus égale. Mais il faut commencer par les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est le fait qu'on a affaire à des humains, on est tous des êtres humains, dans ce sens-là.
Vous inviteriez justement le gouvernement congolais, par exemple, à réclamer le corps de Ota Benga ?
Ouais, mais j'invite aussi le gouvernement français, les gouvernements occidentaux aussi à se poser la question et de se mettre en lien. Ça, c'est de part et d'autre. Voilà, c'est important.
Les auditeurs de la Marche du Monde me posent souvent une question à laquelle vous avez le courage de répondre sur scène, Abdelmalik. Ils me disent, Valérie, après tout ça, comment on peut se dire « je t'aime » ? Alors comment ?
D'abord, j'ai envie de dire, on est condamné à se dire je t'aime. On doit se dire je t'aime. Parce que si on a envie réellement de changer les choses, si on a envie réellement de ce monde qu'on appelle de nos voeux, eh ben, ça commence par ce travail sur nous-mêmes. Et on ne peut pas dire je t'aime à l'autre si on ne se dit pas je t'aime à soi d'abord. Et une fois qu'on est en paix avec soi, une fois qu'on se dit je t'aime à soi, et finalement tout ce dont on est en train de dire participe à cette possibilité d'être en paix avec soi-même, ainsi on pourra dire je t'aime à l'autre. Mais on est obligé d'une certaine manière. Parce que si on ne fait pas ça, c'est l'inverse qui est arrivé, on le voit bien.
Cette histoire fait très mal, Abdelmalik. Elle nous fait mal quand on l'entend.
Pour se construire, on doit être capable d'entendre ce qui fait mal. Pour guérir, on doit se confronter, on doit se regarder en face, réellement, pour pouvoir faire en sorte que les choses avancent.
Je veux dire une petite anecdote. Quand justement j'étais en Australie, face à cette douleur, on ne parle jamais argent. Il y a des réparations à faire. On veut reconnaître cette histoire pour pouvoir être apaisé. Et je pense que autant les Blancs qui sont issus de cette histoire, même si ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est nos grands-parents... en regardant cette histoire en face, on aide les autres à pouvoir tourner la page. Parce qu'ils disent, vous reconnaissez que ça a eu lieu. Et quand on arrive dans certains territoires, comme la Guyane chez les Kalina ou chez les Aborigènes, où cette histoire est encore extrêmement violente, déjà de la reconnaître, c'est une étape. Et c'est très important pour cette réconciliation.
Et de part et d'autre. C'est important, de part et d'autre.
Sinon, on ne comprend pas l'histoire.
C'est ça.
Moi, je suis souvent confronté à des classes scolaires chez qui on va raconter l'histoire coloniale. Et ces gamins me demandent, mais comment les gens, monsieur, ont pu accepter ça? Et je leur dis, mais parce qu'ils ont été intimement manipulés, parce qu'ils ont été piégés, parce qu'on leur a vraiment fait croire qu'il y avait des sauvages, qu'on a fait croire qu'il fallait amener ces sauvages à la lumière, et que la République française, pays des droits de l'homme, mais l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, ou les autres puissances coloniales, ont totalement manipulé les opinions. Et aujourd'hui, ce que tu sais, Abdelmalik, est concret. Si cette histoire, ces images ont fabriqué un discours, nous pouvons, par ces mêmes histoires et par ces mêmes images, en les regardant en face et en commun, déconstruire ces croyances qui souvent durent encore aujourd'hui. Parce que beaucoup regardent encore les pays dits du Sud comme un « eux et nous ». Et tant qu'on croit qu'il y a un « eux et nous », nous ne pouvons pas avancer en commun. La famille est coupée en deux, et donc l'amour ne peut pas exister. Donc il faut montrer ces images, parler ensemble, les dépasser ensemble, même quand elles sont douloureuses, pour arriver enfin à écrire un récit commun. En fait, c'est les autres qui nous demandent de le faire, parce qu'ils nous demandent d'expliquer comment le monde avant eux a marché pour comprendre qui ils sont aujourd'hui.
Merci Pascal Blanchard, Bruno-Victor Pujbé. Merci Abdelmalik. Je rappelle la diffusion de votre film sur la chaîne Arte, c'est le samedi 29 septembre, c'est à 20h50 et c'est en replay jusqu'au 28 novembre. Au cœur du film Sauvage, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde réalisé par Sophie Janin grâce aux extraits du film Sauvage, au cœur des eaux humains. Plus d'infos sur nos pages internet et Facebook. N'hésitez pas à nous écrire, exprimez-vous, podcastez, cette émission c'est la vôtre.